il surpassa de loin même Titien et Léonard, les grands peintres de l'ancienne école. Ni Titien, ni Léonard ne pouvaient être surpassés dans leurs avant-plans, mais, sauf dans leurs avant-plans, ces deux maîtres restaient conventionnels. L'art de Turner conserve la même noblesse dans tous les éléments du paysage. Et c'est sur lui, sur ce qu'il osa ajouter au concept reçu du genre, qu'est fondé tout le paysage moderne. Vous ne rencontrerez aucun grand paysagiste contemporain qui ne reconnaisse franchement tout ce qu'il doit à Turner. Non pas, notez bien, qu'il l'ait copié, mais parce que grâce à son influence, il a été amené à voir dans la nature ce que, sans lui, il n'aurait pu discerner ou ce qu'il n'aurait jamais osé représenter. Turner est donc le premier artiste qui nous fournit un type de paysage parfait. Son art vous entoure aujourd'hui. Personne avant Turner n'avait levé le voile qui nous cachait la nature. La majesté des collines et des forêts était sans interprète et les nuages passaient à la surface du ciel et de la terre sans que personne ne dît le charme de leur forme et les bienfaits de leur rosée.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Le poète et critique d'art John Ruskin fit jouer toutes ses relations pour rencontrer en 1840 le peintre William Turner, alors âgé de 51 ans, déjà célèbre et membre de la Royal Academy depuis plus de 20 ans. Fasciné par la façon si particulière de l'artiste de rendre sur la toile le brouillard, la lumière et les couleurs de la nature, allant jusqu'à en négliger les formes, ce qui hérissait alors certains critiques, Ruskin se fera son plus ardent défenseur. Exécuteur testamentaire de Turner, il parviendra à éviter la destruction de ses carnets de croquis, dessins et aquarelles qu'avait pourtant demandé le peintre. Grâce soit donc rendue à Ruskin, qui ainsi nous permet d'admirer, aujourd'hui encore, ces milliers d'œuvres sur papier d'une grâce et d'une force incomparables, et qui, loin de n'être que de simples ébauches pour ses toiles, représentent le cœur même de la recherche artistique de Turner et sa vision du monde. Le musée Jacquemart-André présente, jusqu'au 11 janvier prochain, une soixantaine de ses aquarelles si fragiles, accompagnées d'une dizaine de peintures couvrant toute la carrière du peintre. Des œuvres éblouissantes que nous avons failli ne pas voir, l'exposition ayant démarré deux jours avant le confinement. Heureusement, la Tate Britain, qui possède le fonds Turner, a consenti à prolonger le prêt et Pierre Curie, co-commissaire de l'exposition, va donc pouvoir nous en parler ce soir. Bonsoir Pierre Curie.
Bonsoir.
Alors ça a été un soulagement, mais j'imagine le même pour tous les musées qui ont pu prolonger l'exposition. Sauf que aujourd'hui, pour aller jusqu'au 11 janvier, il va falloir quoi ? Trier les visiteurs ? Comment ça se passe ?
Alors en effet, au musée, il y a certaines mesures qui sont prises. Bien sûr, le port du masque est obligatoire. On doit se laver les mains avec le gel hydroalcoolique. On peut même prendre sa température, si on est d'accord, à l'entrée du musée. Mais nous avons surtout une jauge d'un nombre de visiteurs limité, une centaine par heure, ce qui est évidemment en dessous de notre flux habituel. Mais enfin, ça permet justement, assez paradoxalement, de voir l'exposition dans de très bonnes conditions.
Alors, cette magnifique exposition Turner, elle est intéressante parce que, effectivement, on n'a pas tellement l'habitude de voir ces aquarelles, parce que les aquarelles, on le sait, ça voyage mal, ça craint la lumière, ça craint les visiteurs aussi. Et donc, cette exposition, elle est deux fois exceptionnelle, parce qu'on a eu des grandes expos Turner, notamment au Grand Palais en 84, en 2010, mais qui montraient surtout les grandes peintures. Et puis, celle-ci, elle insiste sur les aquarelles. Alors, même avec votre co-commissaire britannique, qui dit... Au fond, Turner, il est dessinateur avant d'être peintre. Alors, ça remet la perception qu'on a de ce grand peintre un peu à l'envers. Aquarelliste d'abord, et pourtant, il ne les montrait pas.
Oui, parce que, en effet, d'abord, c'est une technique qui se développe énormément à son époque. C'est pas très original d'être aquarelliste et quand on est anglais.
Surtout pour anglais.
quand on est anglais à la fin du XVIIIe siècle. Ouais. Mais c'est un peu sa carrière qui explique cet aspect des choses puisqu'il va commencer à la Royal Academy dans le domaine de la perspective et assez vite, très jeune, il va travailler dans des cabinets d'architecture comme illustrateur, en quelque sorte, soit des projets d'architectes, soit du rendu des bâtiments évidemment, une fois qu'ils sont terminés. Et il va donc avoir une production graphique très précise, très importante, puisqu'il fallait à cette époque, bien sûr, avoir un rendu extrêmement fidèle des perspectives, des lignes, etc. Donc il est vraiment, en effet, d'abord dessinateur. Et puis, c'est en localisant, en situant ces bâtiments dans des espaces, dans des paysages, qu'il est devenu paysagiste. Mais il est en effet vraiment partie des arts graphiques.
Alors, ces aquarelles, pour la plupart des peintres de l'époque, ce sont d'abord des ébauches, Pierre Curie, des ébauches pour les grandes toiles à venir, presque des pense-bêtes. Il croque sur le vif, il met des couleurs et ensuite ça peut donner une grande toile. Et pourtant, est-ce que c'est notre regard contemporain d'aujourd'hui qui fait qu'on trouve qu'il y a dans ces aquarelles de Turner quelque chose d'infiniment plus intime, plus précieux, plus parlant que souvent les grandes toiles qui sont dans le goût de l'époque, des grandes toiles classiques, des paysages, des ruines, qui nous touchent moins? Pourquoi est-ce que ces aquarelles montrent plus l'âme du peintre?
Alors, en effet, notre regard moderne sur Turner en fait un des précurseurs pratiquement de l'abstraction informelle. Et il est vrai, nous montrons quelques aquarelles qui sont quasiment à la limite de l'abstraction totale. Je pense que ce qui nous séduit aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est l'aspect expérimental, très, très, très moderne, très personnel de Turner, qui est une espèce de gymnastique quotidienne chez lui, qui est parallèle à une production officielle, un petit peu académique. Il faisait partie de la Royal Academy, donc il était académique par essence, mais il a cette discipline quotidienne de travailler ce qu'il appelle souvent les color beginnings, qui sont des ébauches colorées, qui sont des tâches, en fait, mais qui, chez lui, se superposent à une mémoire visuelle extraordinaire. Il a cette capacité d'enregistrer, en quelque sorte, les couleurs et les lumières de la nature quand il voyage, et de les retranscrire dans ses color beginnings avant d'en produire soit des aquarelles finies, soit des huiles. Mais c'est vraiment, il faut bien dissocier ce travail qui est expérimental, je dirais, d'un coloriste, et la production d'un artiste commercial qu'il est également.
Et d'ailleurs, il y a une autre idée préconçue qu'on a sur Turner qui est complètement fausse, c'est d'en faire le père de l'impressionnisme. On va écouter d'ailleurs l'historien de l'art, Pierre Watt, qui nous parle de cette idée fausse.
Pour moi, Turner n'est pas un pré, d'abord c'est une catégorie, je ne comprends pas le pré-impressionniste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est une leçon qui n'est pas de moi, qui vient de Baxendale notamment. C'est-à-dire que l'intention de Turner n'est absolument pas la même que celle de l'impressionnisme. Absolument. C'est-à-dire que l'intention de Turner est une intention totalement métaphysique, et l'intention de l'impressionnisme est une intention phénoménologique et parfaitement matérialiste de ce point de vue-là. C'est absolument pas un art spirituel. Qu'ils aient regardé Turner, c'est évident, mais c'est ce que dit Baxendale à propos du rapport entre Cézanne et Picasso. L'influence, dit-il, c'est A influence B, Cézanne influence Picasso. Il dit non, pas du tout, en fait c'est le contraire, c'est B qui influence A. C'est Picasso qui influence Cézanne, parce que quand Picasso regarde Cézanne, il ne le regarde jamais selon Cézanne, il le regarde selon lui, et il prend la chose pour lui-même. Et nous, nous sommes influencés, parce que quand nous regardons Cézanne, nous avons également Picasso inconsciemment en tête. Donc l'impressionnisme, on le sait, Monet regarde Turner, mais ce qu'il prend dans Turner, c'est à des fins qui ne sont absolument pas des fins turneriennes. Exactement comme le rapport Rodko-Turner, c'est la boutade de Rodko, Turner, ce type, il m'a tout piqué.
C'est une jolie formule, effectivement, Pierre Curie. Alors, on sait que Monet, quand il a quitté la France au moment de la guerre et de la Commune, il a regardé Turner, mais il l'a pas... En fait, ça ne l'a pas inspiré spécialement. C'est vrai ce que dit Pierre Watt. Ce sont deux démarches différentes. Les impressionnistes reproduisent la lumière, la couleur, et Turner, c'est quoi? C'est une recherche métaphysique?
Absolument, je partage complètement cette opinion. D'abord, avec une nuance, c'est que les impressionnistes qui sont allés à Londres à la fin du 19e siècle, Monet et quelques autres, n'ont pas vu le Turner que nous présentons aujourd'hui à Jacquemart.
Ils ont vu les grandes toiles classiques.
Ils voient les grandes toiles classiques, les magnifiques vues de Venise, qui magnifie en effet la lumière, qui magnifie l'air qui tourne autour des monuments. Donc en ça, il y a des points de contact. Mais il ne voit pas ce Turner expérimental, moderne, qui à ce moment-là, rangé dans les cartons de la Tate Gallery, et qui ne sont pas accessibles, et qui ne leur est sans doute pas plu, enfin peut-être à Monet, mais il ne voit pas ces color beginnings qui sont tellement audacieux, en fait, de style. Donc, en effet, Pierre Watt a raison. La démarche de Turner est la démarche d'un romantique et d'un post-romantique. Il appartient complètement à son époque. C'est un peintre de l'âme. Il recherche au-delà des représentations de la nature la véritable signification de la nature. Je dirais c'est un déiste. Et s'il préfigure quelque chose, c'est le symbolisme. C'est les pré-raphaélites. C'est avec qui, d'ailleurs, il a Ruskin en commun. C'est très intéressant de voir Ruskin s'intéresser à Turner, puis être le principal défenseur des pré-raphaélites à la fin du siècle. Il a vécu très longtemps, Ruskin. Et bien sûr, on connaît son romantisme absolu, son amour des ruines, hein, les pierres de Venise. Et Turner est dans ce cycle-là. Il n'est pas, en effet, dans la modernité française qui apparaît à partir de 1860-70.
Mais d'ailleurs, quand on dit Turner moderne, par exemple, en sortant de Jacques Marandré, d'avoir vu effectivement ces taches de couleurs qui nous parlent tellement, parce qu'on est habitué à l'abstraction, dire que Turner est moderne, est-ce que ça a du sens, Pierre Curie?
Alors, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur le sens du mot moderne, qui est assez complexe, en fait, d'un point de vue philologique. En tout cas, il parle à notre sensibilité d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes de la fin du XVIIIe siècle, dont certains, en effet, sont prodigieusement ennuyeux et n'ont plus rien à nous dire, enfin, d'un point de vue de l'affect. Turner nous touche encore beaucoup, et c'est sans doute là qu'il a cet aspect moderne, parce qu'il a, je pense, un langage artistique qui n'est pas complètement en pleine synthèse chronologique avec son époque. Il a une espèce d'avance, de réflexion sur son art, qu'il a gardé pour lui-même, en effet, et dont il ne voulait pas spécialement faire part, puisqu'en effet, il demande que ses carnets et ses ébauches soient détruites. En même temps, il les a gardés toute sa vie. Donc, il y attachait beaucoup d'importance. C'est que chaque morceau de papier représentait pour lui un moment de sa création. Donc, il y a une ambiguïté aussi, là, chez lui.
D'ailleurs, en 2010, au Grand Palais, pour l'exposition Turner et ses peintres, on a bien vu qu'en fait, il fallait enjamber l'impressionnisme pour voir la filiation réelle de Turner et aller directement jusqu'à Rothko. Et d'ailleurs, comment faire une émission pour parler d'un peintre sans passer notre cher Daniel Arras?
L'ancienne problématique du de près, de loin, est-ce qu'on regarde un tableau de près, est-ce qu'on le regarde de loin, elle se liait à l'idée que le petit tableau est intime et le grand tableau, au contraire, doit se voir de loin. Bon, ce qui est fascinant chez Rothko, c'est qu'il retrouve la problématique, mais il la renverse. Il n'est pas le seul, hein, parce que Pollock aussi l'a dit qu'il voulait être dans la peinture, et il y en a d'autres qui l'ont dit. Mais c'est très intéressant chez lui que ce soit par le biais de la grande dimension que vient l'intimité. Et là, je dois dire que quand il dit aussi qu'il faut regarder ces tableaux, je crois que c'est à 18 pouces, hein, calculé, ça fait presque 46 ou 50 centimètres. La curieuse il m'a rappelé la pratique de peinture et de regard d'un des peintres du début du 19e siècle, qu'on pourrait presque considérer comme un des précurseurs de l'abstrait, et qui est Turner. Turner qui peignait de grandes toiles, et en les peignant tout près, de tout près, avec de minuscules pinceaux, à la différence de Velázquez qui peignait de loin. Turner peignait avec de minuscules pinceaux ou des couteaux minuscules, et jusqu'à la veille de l'exposition, il revenait travailler encore. Il y a des descriptions magnifiques de Turner, les tableaux étant accrochés dans la galerie, bien venant encore à 20 cm peindre son tableau qui est immense.
Pierre Curie, alors là c'est vrai, on enjambe carrément les peintres qui viennent juste après Turner, on va dans l'abstraction. Il parle de Rothko, Daniel Arras, mais on peut parler de Zhao Wuqi ou de Nicolas de Staël. Là, eux, ces peintres-là, ont regardé Turner avec ce regard tout à fait moderne, contemporain.
Oui, absolument. D'autant plus que, je dirais, l'œuvre de Turner se divise vraiment en deux parties assez pratiques, si l'on veut. Sa production officielle, académique, commerciale, qui est très, très intéressante, qui est de très haute qualité, et puis cette production personnelle qui vient rejoindre, en effet, les préoccupations, en effet, d'un Rothko sur les jeux de matière, les transparences. Il y a vraiment ça en commun, là, pour le coup, et c'est tout l'intérêt du travail de l'aquarelle par rapport au travail de l'huile. Pour Turner, en fait, c'est une espèce de négatif de son travail sur l'huile, puisque en aquarelle, les blancs sont le papier. Enfin, on travaille beaucoup sur l'idée de la réserve et des superpositions de couleurs transparentes. Et Rothko a beaucoup produit ces superpositions, ces frottis, ces peintures qui laissent, en effet, transparaître des profondeurs sur des matières en extrêmement fines.
Mais d'ailleurs, à son époque, les critiques qui n'appréciaient pas toujours l'œuvre de Turner le critiquaient pour la disparition de certaines formes. On trouvait qu'il n'était pas assez réaliste, en gros. Et pourtant, quand on regarde ces grandes toiles qui étaient accrochées dans les musées, à l'académie ou chez les grands mécènes, pour nous, ça paraît un peu pompeux comme peinture.
Je comparerais le génie et la démarche de Turner à ceux de beaucoup de peintres, de grands artistes, par exemple Rembrandt. Ce sont des artistes qui sont absolument virtuoses, très jeunes, à 15, 16, 17 ans. Ils sont parfaits. Ils arrivent à peindre de façon réaliste, avec une maîtrise de leur métier totale. Et on a l'impression que toute leur vie passe à essayer de se débarrasser de cette virtuosité, de se débarrasser de ce trop grand savoir-faire qui les limite d'une certaine façon. Et on voit bien chez Rembrandt ou chez Goya ou chez d'autres artistes cette recherche d'un absolu qui n'est pas dans la technique.
Et qui passe souvent par la couleur, d'ailleurs.
Qui passe souvent par la couleur. Et chez Turner, lui, il a fait un peu de schizophrénie en art. Il a mené en parallèle ces deux carrières. Cette carrière officielle et puis cette carrière plus personnelle, cette recherche plus personnelle.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Pierre Curie, dans l'article que mon confrère Philippe Dagen, toujours très au point, a consacré à cette exposition des peintures et aquarelles de Turner à Jacques Marandré, dont nous parlons avec vous, il a une formule que j'ai trouvée absolument formidable. Il dit « c'est un fanatique du regard ». Et en fait, on en revient à notre discussion précédente sur les critiques qui lui reprochaient justement de ne pas être assez réaliste et de dissoudre certaines formes. Dagen nous dit, mais en fait, non, il est très fidèle à ce que son œil voit. Et effectivement, quand on est dehors, parfois, la lumière se posant sur un endroit, on le voit très clairement, et puis parfois, il y a des brouillards. Est-ce qu'au fond, justement, Turner n'est pas particulièrement précis dans la reproduction sur ses toiles, sur ses aquarelles, de ce qu'on doit voir lorsqu'on regarde un paysage, un coucher de soleil, la lagune à Venise? Est-ce qu'au fond, c'est vraiment, il a une perception beaucoup plus aiguë que nous, ce qui fait l'artiste?
Il a sans doute, bien sûr, cette habileté d'artiste à regarder, à voir, à savoir sélectionner finalement ce qui va transposé sur sur le papier ou sur la toile, mais il a surtout cette richesse personnelle, cette âme d'artiste qui va cueillir justement dans la nature ou dans le paysage urbain ce qui peut nous toucher. Représenter Venise pour représenter une ville italienne du 15e siècle ne l'intéresse absolument pas. Et ce qui l'intéresse, c'est en effet de nous convier à un voyage intérieur, un voyage poétique. Il est beaucoup plus proche des poètes finalement que beaucoup de peintres de son époque. Il est un romantique et ce regard qu'il a, ce savoir voir, s'accompagne chez lui surtout, je pense, d'une leçon de littérature d'une certaine façon, enfin en tout cas d'une leçon de rêverie, puisqu'il nous conduit en fait à plonger dans ces paysages et à vivre la même rêverie ou la même expérience que lui.
Alors ce peintre, ce Turner, on sait que c'était une sorte d'ours ou d'ogre, parfois on le dépeint comme un rustre, et en même temps quand on regarde son œuvre, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il avait une vie intérieure très, très fine, très poussée, très intense. On va redonner la parole à Pierre Watt.
Pour lui, il y a une équivalence totale. C'est-à-dire que la couleur comme matière est l'équivalent pour l'artiste de ce que serait une sorte de glaise pour un dieu créateur. C'est-à-dire que c'est la matière même du monde, la matière de la peinture, la matière du même du monde, c'est une seule chose. Et d'ailleurs, il est bien anglais de ce point de vue-là, il veut réconcilier les deux. C'est totalement une peinture naturaliste, c'est donc totalement une peinture spirituelle. Enfin, je peux vous reformuler la phrase à l'envers, ça reviendra exactement au même. C'est-à-dire que on n'est pas dans un art de l'imagination, au sens d'une sorte de comme ça qui se déferait de la mimésis. C'est vraiment, j'observe le monde, mais en observant le monde, je remonte à ses principes, parce que véritablement, il y a une théologie derrière. C'est-à-dire que Turner, c'est un métaphysicien. C'est profondément quelqu'un qui a un rapport spirituel au monde. Ce qu'il cherche derrière, c'est l'architecte divin, le dieu créateur, appelez ça comme vous voulez. Mais d'où l'idée de la construction aussi. C'est la couleur, c'est Dieu et c'est le monde.
Pierre Curie, la couleur pour Turner, c'est Dieu, c'est le monde. Métaphysicien, on y revient. C'est une peinture philosophique, Turner.
Oui, et Pierre Watt a raison, parce que Turner recrée. C'est-à-dire qu'il travaille de mémoire. Il faut pas perdre de vue cet aspect absolument clé de sa production, de sa création.
Oui, contrairement aux impressionnistes, il n'emporte pas sa toile dans la nature.
Absolument, et contrairement à son contemporain Corot, qui a une démarche à la française complètement à l'opposé. Turner voyage, il prend des notes lorsqu'il est en Suisse ou en Italie dans ses carnets, que ce soit des petites taches de couleur ou des graphiques ou des choses extrêmement légères. Et puis c'est de retour à Londres, à l'atelier, qu'il produit ses œuvres, encore une fois, que ce soit la production commerciale, mais aussi ces grandes aquarelles qui nous présentent des propositions colorées absolument stupéfiantes. On présente par exemple deux vues d'un château au bord de l'eau qui sont pratiquement l'une le négatif de l'autre. Et toutes ces œuvres-là sont faites de mémoire à Londres, avec cette prodigieuse capacité de reconstituer des ambiances colorées. Et c'est là, je dis, il est démiurge, il est créateur, recréateur d'un univers qui lui a parlé au moment de son voyage.
Alors, c'est très étrange de vous entendre raconter ce Turner-là, Pierre Curie, parce que c'était un académicien, il était reçu chez les Lords, il faisait ses grandes toiles, il accrochait tous les ans aux expositions de la Royal Academy. Au fond, on sait peu de choses de sa vie intérieure, sauf si on prend ses aquarelles comme étant un journal intime, au fond.
Oui, le journal d'un créateur. Alors, c'est vrai que le film de Mike Lee, en 2014, oui, a donné de lui une image quand même extrêmement d'un rustre mal léché, d'un ours mal léché, assez amusant. Timothy Spall est merveilleux dans l'incarnation de cette espèce de misanthrope
absolue.
Oui, qui
va à la fin de sa vie jusqu'à changer de nom et aller s'installer chez une bourgeoise.
Oui, il se fait appeler Mr. Booth. Sans doute, il était très original, ce qui est quand même une des grandes qualités des Anglais, assez souvent, puisque aussi il pratique l'argot de Londres qu'il parle, et il parle pas du tout un Anglais châtié, alors qu'il est membre de la Royal Academy, qui est l'institution la plus, je dirais, conservatrice du Royaume d'Angleterre à cette époque-là. Donc, c'est un personnage paradoxal, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il est l'homme officiel de la Royal Academy, il va même la diriger à un moment donné, et il sera même enterré entre Thomas Lawrence et Reynolds
à
la cathédrale Saint-Paul. Là, on peut pas, j'imagine, de réussite plus haute.
C'est un beatnik de l'académie, quoi.
Voilà, quelque chose comme ça. Et en même temps, il a gagné beaucoup d'argent avec son art. Il était, je pense, assez préoccupé d'avoir des revenus constants et importants. Et venant lui-même d'un milieu relativement modeste, il a vraiment fait une carrière superbe pour étant donné son origine sociale. Et donc, il a cet aspect gagneur, si je puis dire, notamment lorsqu'il travaille pour l'édition. Alors, il s'en plaint continuellement, semble-t-il, mais il travaille pour les voyages pittoresques, pour illustrer des livres. Il faut dire aussi qu'à cette époque, c'est la grande révolution du livre illustré en Europe. Et donc, il participe vraiment à ce mouvement qui est pour lui une production qu'il n'aime pas beaucoup, qui lui rapporte beaucoup d'argent. Donc, il est l'un et l'autre.
Alors, il a besoin d'argent aussi, ce Turner, pour voyager, parce que c'est un voyageur. Pas seulement à l'habitude des artistes de l'époque qui font leur grand tour en Europe. Lui, il y va, il y retourne, il y re-retourne. Il est comme appelé. Alors, il va faire la France, il va faire la Suisse, un peu l'Europe, et essentiellement Venise. Alors, il faut s'arrêter sur ces aquarelles et ces toiles qui nous viennent de ces voyages. C'est un besoin chez Turner, et c'est dans votre exposition, Pierre Curie, c'est l'essentiel au fond, ces petites aquarelles qui représentent les paysages devant lesquels il se pose et qu'il regarde avec une sorte d'ivresse. Le voyage pour lui, c'est aussi au cœur de sa création.
Ce que nous avons essayé de montrer dans notre accrochage, c'est comment les voyages l'ont libéré, vraiment. Durant la première partie de sa carrière, il y a le blocus continental, aucun Anglais peut vraiment voyager avant 1815. Donc, les artistes britanniques s'en tiennent à leur île et voyagent en Écosse, en Irlande, en Angleterre, mais ils ne peuvent pas sortir. Et lui, son premier voyage important, c'est 1802, la paix d'Amiens. Il vient à Paris, il découvre le musée du Louvre rempli des chefs-d'œuvre que Napoléon a pillé à droite à gauche. Et puis, la France se referme, les choses se bloquent de nouveau. Et c'est en 1817 qu'il va pouvoir faire son premier grand voyage européen en Belgique et dans la vallée du Rhin. Et puis en 19, le premier voyage en Italie qui est véritablement un choc visuel, un choc lumineux de couleurs. Et notre accrochage, j'espère, le montre. C'est-à-dire qu'on a des œuvres très grises, très beiges, très brumeuses justement au début de sa carrière. Et puis une sorte d'éclatement et de libération, de libéralisation complète de son travail, qui est à la fois une nouvelle approche de la couleur, très pure, il utilise des pigments pratiquement purs sur ses toiles ou sur ses aquarelles, et donc cette nouvelle approche lumineuse de son art.
Oui, d'ailleurs, après, Pierre Curie, les critiques diront, mais il emploie que du jaune, du rouge, mais au fond, c'est ça, c'est la rencontre avec les couleurs de l'Italie, notamment de Venise. Il y a énormément d'aquarelles sur Venise, il faut quand même s'arrêter sur quelques-unes. Il y a notamment celle qui fait la couverture du catalogue et qui est accroché à côté d'une toile plus académique, disons.
Voilà, c'est les deux Turner, le Turner commercial qui est dans l'air du temps. On a beaucoup aimé Venise à cette époque-là, c'était la ville romantique, les écrivains, les peintres, tout le monde va à Venise, la ville qui meurt, la beauté des ruines, la beauté du temps qui passe. Mais il y a une production commerciale sur Venise, et puis il y a aussi ces incroyables aquarelles qui sont en effet des vraiment comme des poèmes lumineux jetés sur le papier, avec ce que j'appelle des idéogrammes. Parce que, dans le fond, s'il n'avait pas peint sur cette aquarelle quelques petits signes pour montrer que c'est Venise, notamment les piliers, les fameux poteaux qui sont plantés dans la lagune, nous serions dans un monde de couleurs pures, et qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel, une sorte de déclinaison, comme ça, de couleurs absolument pures. Et il recherche ça, il recherche l'impression de luminosité qu'on peut avoir devant ces incroyables couchers de soleil sur la lagune. Ça n'est pas un motif romantique, c'est vraiment une expression de son de sa fascination.
D'ailleurs, à ce moment-là, il y a quand même quelques Français qui se rendent compte que la peinture de Turner est absolument exceptionnelle. On va écouter pour le plaisir un petit extrait du journal des frères Goncourt.
Journal des Goncourt, William Turner. J'étais en train de travailler quand Gould a fait irruption chez moi et malgré ma résistance m'a emmené chez lui voir son Turner. Eh bien, cette demi-journée perdue, je ne la regrette pas, car ce tableau est un des 10 tableaux qui ont donné à mes yeux la plus grande joie. Car ce Turner, c'est de l'or en fusion, avec, dans cet or, une dissolution de pourpre. Ah, cette salute et ce palais des doges, cette mer, ce ciel aux transparences roses d'un agalmatolite, tout cela, comme vu dans une apothéose, couleur de pierre précieuse. Et de la couleur, par coulée, par larmes, par congélation, telle qu'on en voit sur les flancs des poteries de l'Extrême-Orient.
Voilà, de l'or en fusion, on ne peut pas dire mieux hein, sur ce tableau dont il parle.
Oui, oui, Cécile Gould est le premier et le seul d'ailleurs collectionneur français de Turner à l'époque. Et en effet, c'est... alors il avait un vrai Turner et deux faux d'ailleurs, mais il le savait très
bien. Oui, il le savait.
Mais il a bien beaucoup de, en effet, d'artistes ont vu Turner à Paris. Et aussi des écrivains comme Proust, bien sûr, qui
Ah, il paraît que Elsir, enfin, ça a été un, Turner a été un modèle.
Oui,
de
alors
ce qu'on dit.
Bon, ça, c'est les projections qu'on a fait sur la recherche. On peut gloser à l'infini sur les modèles de Proust. En tout cas, il est sûr que la fascination de Venise a une origine littéraire chez lui, et notamment à cause de Ruskin. Donc, il y a quand même vraiment une filiation.
Alors, il faut parler de la dernière salle, la salle 8 de cette exposition à Jacquemart-André. Pierre Curie, il y a, vous avez mis juste côte à côte deux grandes toiles de la fin de la vie de Turner. Alors, parlez-nous-en, parce que ce sont des toiles qui sont nommées, donc on cherche, on se dit les dauphins dans la mer ou le yacht rentrant au port, mais au fond, ça n'a aucune importance, parce qu'on a l'impression qu'il a rajouté presque des choses pour justifier le titre, et qu'au fond, c'est pas ça l'important.
Je ne suis même pas très sûr qu'on puisse voir les dauphins. Ce sont deux marines. Puisque leur titre indique que ce sont des sujets marins. Mais en réalité, l'esthétique des œuvres est très très éloignée de toute marine, ne serait-ce que d'abord par le choix complètement arbitraire des couleurs. On y trouve des jaunes vifs, des rouges, des pourpres,
des violets. La mer est marron, par
exemple. Voilà, la mer est marron ou grise. Mais elle n'a absolument pas les couleurs habituelles que l'on lui donne dans les marines. Et puis surtout, ces deux toiles sont des espèces de chaos, de forme et surtout de forme en mouvement. La touche chez Turner à ce moment-là, c'est la fin de sa carrière, est très structurante. Il essaie d'ailleurs même des techniques de grattage, de ce que les Anglais appellent aussi du spitting, c'est-à-dire des projections qui sont faites en grattant la brosse. Hein. Et c'est là, pour le coup, il est vraiment assez proche de certains artistes du 20e ou même du 21e siècle, et dans ce côté informel et je dirais, c'est une peinture très gestuelle aussi, puisque l'une des deux marines est une sorte de mouvement circulaire qui a la forme du bras de Turner. On sent son mouvement, on sent l'ampleur de son bras, et tout ça est donné à voir comme une matière absolument brute de peinture libre. C'est dans le fond l'aboutissement final de cette évolution vers cette libération que j'évoquais tout à l'heure de sa propre virtuosité.
Donc, à sa mort, Turner a légué ses toiles à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre. La tête britaine a fini par faire une aile spéciale réservée aux peintures de Turner. Et on constate qu'en France, le Louvre a acheté son premier Turner en 67.
Oui, c'est très tard.
C'est quoi la vieille détestation des Anglais?
Il y a sûrement un peu de ça. Il y a de l'incompréhension aussi. Les structures académiques françaises étaient aussi très très fortes, dans le fond réticentes et résistantes à cet art libre, cet art très personnel de Turner. Et il y a quand même aussi la vieille détestation. Je dirais aussi ce sentiment de supériorité qu'il y a chez beaucoup d'instances à l'époque par rapport aux artistes étrangers, n'est-ce pas ? La France était au centre du monde et les artistes français les meilleurs de l'univers. Donc, on a raté énormément d'artistes à cette époque-là. Amer Choy, par exemple.
Oui, c'est vrai, Amer Choy, dont nous avions parlé il n'y a pas longtemps, effectivement. Et les collectionneurs, eux, ici sont... On en parlait de Groul tout à l'heure, mais...
Non, il y en a eu très peu. Il y en a eu très très peu. Par rapport au succès que Turner a eu en Angleterre, qui est considérable, il a beaucoup plu à la fois à l'aristocratie qu'il fréquentait, mais aux autres artistes. Enfin, c'était vraiment une référence. C'était le prince des aquarellistes. Une personne extrêmement respectée du monde des arts en Angleterre. Et pourtant, il est venu souvent en France. Il a fait le voyage sur la Loire,
Il y a des jolies aquarelles sur la Seine, effectivement.
Il y a quelques années, je crois, le musée de Nantes a acheté une belle vue de Nantes, peinte lors d'un de ses voyages, mais le Nantes n'avait aucune œuvre de Turner jusqu'alors.
Et alors, ce mystère de la demande de destruction, justement, de ses aquarelles et de ses carnets, alors qu'on vient d'expliquer que pour lui, c'était un trésor, Ruskin dit, il le faisait aussi pour son plaisir, donc c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Est-ce qu'on sait pourquoi il a demandé qu'après sa mort, tout ceci soit détruit? Dieu merci, ça ne s'est pas fait. Merci Ruskin, mais quand même.
Il faudrait rentrer dans son cerveau.
On ne sait pas, il n'a pas...
Sans doute, ne voulait-il laisser de lui que cette, l'image du Turner officiel, de l'Académie, du Turner qui avait réussi. Et le Turner qui peint, qui crée des images tellement étranges, bizarres, comme cette locomotive dans la tempête. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même une imagination un peu malade parfois. Je pense qu'il a eu peur, peut-être, qu'on rentre trop dans sa psyché, qu'on le connaisse plus qu'il ne souhaitait.
Privacy.
Yeah, it's privacy. Absolument.
Ah ben, c'est une jolie formule. Voilà, cette exposition au musée Jacquemart-André, que nous pouvons voir jusqu'au 11 janvier, concerne donc Turner, peinture et aquarelle. Ça vient des collections de la Tate. Il y a une soixantaine d'aquarelles, sublimes toutes, et une dizaine de grandes huiles. Et c'est un plaisir absolu. Simplement, il faut peut-être réserver sur Internet.
Il faut réserver
sur Internet pour être sûr de pouvoir rentrer à Jacquemart-André en toute sécurité. Merci à vous, Pierre Curie. La prochaine, c'est quoi?
La prochaine, c'est Signac et le post-impressionnisme.
Bon, on se reverra alors.
Voilà. D'accord.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.